France Inter, franceinter.com. Le téléphone sonne. 01 45 24 7000. Vos questions, vos réactions sur franceinter.com.
Bonsoir. Et pourquoi pas la décroissance? Après l'échec du sommet de Copenhague, on reparle de la décroissance, cette idée qui fait peur et qui est la seule utopie du 21e siècle. La décroissance constate que la Terre s'épuise, que nous épuisons la Terre, nous qui serons 9 milliards sur la planète en 2050. Pour durer, la civilisation humaine devrait donc consommer moins, apprendre la frugalité. Or, nos poubelles sont pleines et nous gaspillons tous les jours. Apprendre la frugalité, oui, ça vaut sans doute pour l'Occident, mais la majeure partie des terriens l'a subi depuis toujours, cette frugalité. Et la croissance, au contraire, leur permet d'espérer avoir un jour une part du gâteau. 2 milliards d'Indiens et de Chinois sont à la porte et attendent. Vous voyez que dans ce débat bourré de contradictions, il faut repenser le logiciel politique qui indexe la réussite d'un pays sur la croissance de son PIB, produit intérieur brut. Alors, la décroissance est-elle gage de bonheur intérieur brut? Nous allons en débattre ce soir avec Bernard Pancher, député UMP de la Meuse, co-rapporteur de la loi Grenelle 2, Gérard Onesta, ancien député vert au Parlement de Strasbourg, et Dominique Bourg, philosophe, professeur à l'Université de Lausanne, théoricien du développement durable.
Le téléphone sonne.
Merci, messieurs, d'être avec nous ce soir. Nous allons d'abord demander à monsieur Dominique Bourg, qui est philosophe et théoricien de la décroissance, comment, lui, il qualifierait et décrirait la décroissance. Monsieur Bourg, bonsoir.
Bonsoir. Bah, je crois que
vous êtes en direct de Lausanne, on va le préciser, où vous enseignez, et vous êtes accueilli par nos confrères de la radio suisse romande. Nous remercions bien sûr nos confrères suisses de vous accueillir dans nos studios. Alors, la décroissance, c'est quoi, Dominique Bourg?
Bien, écoutez, si vous prenez le mot dans sa généralité, ça risque d'embrasser beaucoup trop de choses. La première des choses qu'il faut bien avoir en tête, ça ne sert pas grand-chose de le dénier, si vous voulez, c'est que la croissance infinie des flux de matière et des flux d'énergie, comme nous le fait croire la théorie économique néoclassique, ça n'a absolument aucun sens. Aujourd'hui, on touche de toutes parts les limites, en termes par exemple de disponibilité déjà de certains métaux précieux, semi-précieux. On l'a encore entendu souvent avec Copenhague en ce qui concerne les capacités, si vous voulez, du système climatique à encaisser nos gaz à effet de serre. On le sait en termes de disponibilité de l'eau douce, avec au moins une dizaine de grands fleuves du monde aujourd'hui qui n'atteignent plus la mer, si ce n'est que de façon très transitoire. Nous sommes, si vous voulez, confrontés à une finitude tous azimuts. Donc, encore une fois, le déni ne sert pas à grand-chose. Donc, si par décroissance, on entend faire décroître de façon drastique, nous, sur les décennies qui viennent, nos flux de matière et nos flux d'énergie, de toute façon, il n'y a absolument aucune autre alternative. Soit on s'y prépare, soit on le subira, avec évidemment une certaine forme de violence. Ensuite, après, comment on peut faire croître de la richesse, si vous voulez, avec des flux de matière et des flux d'énergie qui doivent se réduire de façon drastique? Je crois, il faut quand même pas non plus rêver. Il y a un découplage qui peut se faire de façon partielle, mais au bout du compte, c'est évidemment pas la même richesse, si vous voulez, qu'on a à la fin de la chaîne. C'est-à-dire cette richesse telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui se compose essentiellement d'une espèce de consumérisme débridé. Après les écrans plats, vous aurez les écrans 3D, etc. Ça, je pense pas qu'on puisse l'avoir indéfiniment. Donc il va falloir réinventer ce qu'on entend par prospérité. Il y a par exemple un magnifique document que la Commission du développement durable anglaise, sous le nom de Tim Jackson, a sorti il y a quelque temps sur la prospérité sans croissance. Toute la difficulté, c'est qu'il faut repenser un certain nombre de concepts fondamentaux, comme ceux de prospérité, comme ceux de richesse. Il faut repenser nos indicateurs. Côté français, on a commencé à le faire avec la commission Stiglitz. Bon, il faut reconstruire une autre civilisation, reconstruire un autre monde, et ça, sans se casser la figure en même temps, vous me le concéderez, c'est pas une chose facile, mais je crois pas qu'on ait vraiment un immense choix.
Nous allons y venir. J'ai retenu prospérité sans croissance et bien sûr un monde fini. Monsieur Bertrand Pancher, bonsoir.
Bonsoir.
Pardon d'avoir écorché votre prénom tout à l'heure. Monsieur le député UMP de la Meuse, vous êtes rapporteur de la loi Grenelle 2, ce qui dans le jargon politique signifie la loi qui a mis en musique un certain nombre de dispositions élaborées lors du Grenelle de l'environnement, un monde fini et les politiques, eux, ils travaillent sur un cycle très court, des élections à venir, le destin de la planète dans 50 ans, ma foi, ils ne seront plus là pour l'assumer. Comment résout-on cette contradiction ?
Écoutez, d'abord, je voulais saluer Dominique Bourg et vous dire que je suis évidemment d'accord avec l'ensemble de ses propos. Faire de la politique, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement vouloir rendre les gens heureux. Alors, rendre les gens heureux, comment ? En essayant de leur montrer un horizon. Et l'horizon, la société auquel je crois, c'est une société de développement de l'humanité, mais de développement partagé de l'humanité. Je crois qu'on vit actuellement une vraie rupture. Et si nous ne voulons pas aller dans le mur, nous avons vraiment besoin de grandes règles et de grandes valeurs. Ces règles, dans le cadre d'un développement futur, elles ont besoin d'être appropriées par l'ensemble de nos concitoyens. Il y a des domaines où il est clair qu'il faut qu'on s'engage en direction d'une décroissance. Lorsque la croissance passée a été mauvaise, des énergies qui dégagent des gaz à effet de serre, de l'alimentation anti-biodiversité. Mais par contre, il faut effectivement de la croissance lorsque cette croissance est au service de l'homme. Vous le disiez tout à l'heure, Patrick Boyer, la croissance fait espérer. Nos débats sont bourrés de contradictions, mais quand on est dans un pays pauvre, on a besoin de plus d'agriculture, on a besoin de transformer les matières premières. Et quand on est dans les pays riches comme les nôtres, on a besoin également d'éducation, de formation, de recherche, de santé. Donc la croissance n'est pas incompatible avec notre projet de société.
Merci. Gérard Onesta, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez été longtemps député européen et vice-président du Parlement de Strasbourg. Vous êtes un élu vert. On remarque que chez les Verts, le thème de la décroissance ne fait pas florès, à la seule exception d'Yves Cauchet, qui a fait une campagne interne, qu'il a perdu d'ailleurs, sur ce thème-là. C'est déjà trop une utopie pour votre mouvement, que la décroissance ?
C'est-à-dire qu'on s'est posé la question de manière assez tactique. Bien évidemment, je ne reviens pas sur tout ce qu'a dit M. Bourg tout à l'heure, qui est frappé au coin du bon sens et que tout être normalement constitué devrait partager. Mais on s'est posé la question de manière tactique. On a repéré que l'écologie était furieusement tendance. Ça ne vous a pas échappé. Et que pour cela, la plupart des intervenants politiques nous pillaient notre vocabulaire. Alors, le vert, le bio, le durable étaient à toutes les sauces. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne va pas trouver un mot où ils vont réfléchir à deux fois avant de se l'approprier ? Et le mot décroissance est venu assez naturellement. Parce que c'est vrai que là, il tordait un petit peu du nez. Parce que reprendre ce mot-là, il était difficile du jour au lendemain. C'était vraiment un virage à 180 degrés par rapport à tout ce qu'il nous avait raconté. Mais c'est vrai que le mot décroissance peut être casse-gueule, surtout quand M. Sarkozy s'amuse à le caricaturer. Ça vous a pas échappé là également qu'il y a 15 jours, il a dit « Mais les écologistes sont irresponsables, vous rendez compte, ils veulent rajouter de la misère à la misère. »
Oui, c'est devenu une injure dans la voix de certains politiques, ce thème de la décroissance.
Exactement. Alors,
donc vous ne l'avez pas assumé dès le début.
Alors on s'est dit, est-ce qu'on prend le risque d'assumer ce mot qui va être compliqué à expliquer ou pas ? On a été très très partagés, mais je crois que maintenant on n'a plus le choix. Et moi qui suis en campagne pour les régionales, je peux vous dire que je l'assume pleinement, je l'ai mis en pleine page de tout un tas de documents, parce qu'effectivement, il faut oser la pédagogie, expliquer que derrière la décroissance, eh bien, c'est la décroissance du pillage des ressources naturelles, de la pollution qui fait exploser les taux de cancer, des transports inutiles, des dépenses d'armement, des pubs qui rendent compte. Il y a plein de choses que l'on veut voir décroître, mais à côté de ça, avec les économies réalisées. C'est ça qui est important, parce que justement, en faisant décroître tout ce que je viens de dire, on économise, on dégage des moyens nouveaux, on peut faire croître plein de choses, notamment pour le tiers-monde, l'accès à la culture, aux soins, au logement, la croissance des transports en commun, des énergies renouvelables, la croissance des préventions des risques. Il y a plein de choses qui peuvent croître, mais on ne peut faire croître ces choses-là que si l'on décroît par ailleurs. Donc oui, la décroissance, il faut l'oser dans le débat politique. Et merci à France Inter de le faire en fin d'année.
Merci Gérard Ronessa. Je précise que vous intervenez de Toulouse, puisque vous êtes candidat dans la région. Vous avez un accent qui ne trompe pas et vous êtes dans les studios du MOUV à Radio France. Nous remercions le MOUV de vous accueillir pour ce téléphone sonne. 01 45 24 7000, un premier auditeur, c'est Eric qui nous appelle de Bretagne. Bonsoir Eric.
Oui, bonsoir tout le monde.
Bienvenue sur l'antenne, c'est à vous.
Merci beaucoup. La question est très simple. La décroissance doit-elle passer par la consommation ou tout simplement, on pourrait peut-être penser aussi à une décroissance démographique?
Oui, bien sûr. 9 milliards d'habitants en 2050. Dominique Bourg, il y a un fond de malthusianisme chez les décroissants.
Oui, alors on peut entendre les choses de manière différente, mais la question de l'auditeur est tout à fait fondée. Je veux dire, la démographie est un aspect clé dans toute cette affaire. Maintenant, on ne va pas s'amuser à tuer les gens, absolument aucun sens. Donc on doit se débrouiller, effectivement. On risque d'être à peu près 9 milliards d'ici une trentaine d'années, ce qui ne va pas aller sans poser un certain nombre de problèmes. Mais ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire que, si vous voulez, pour penser cette question de la décroissance, il faut avoir l'idée de partage. C'est-à-dire que pour le moment... Et c'est le monde qu'on connaît depuis une trentaine d'années avec le néolibéralisme a, si vous voulez, accentué ces choses-là. On a cru d'une façon folle, on a aussi accueilli quelques centaines de millions, presque plusieurs centaines, presque un milliard, si vous voulez, de convives nouveaux au repas de la croissance. Mais on sait que pour assurer un bien-être minimal, pour aujourd'hui 7, bientôt effectivement 9 milliards, les disparités sociales qu'on connaît aujourd'hui, les disparités de revenus, puis alors surtout les disparités en termes d'accès à des choses aussi fondamentales que l'eau, que la santé, etc., on n'y arrivera pas sans une volonté de partage des fruits alors de la croissance, si vous voulez, antérieure. Sans ça, on n'y arrivera absolument pas.
Oui, on tourne autour de cette idée malthusienne quand même. On n'ose pas l'assumer parce qu'elle aussi, elle fait peur, elle n'est pas trop tendance, mais on tourne
malheureusement,
autour.
Malheureusement, elle est là. C'est ce qu'on appelle la finitude, si vous voulez. Je prends par exemple l'équation d'un économiste japonais qui compte que, si vous voulez, si on veut effectivement baisser par deux les émissions de gaz à effet de serre global, mondial, d'ici à 2050, il faudrait réussir à diviser par 8 l'intensité énergétique. Or, durant les 50 dernières années, on a réussi à la diviser par 2. Vous imaginez donc qu'effectivement, le défi est énorme. Donc, effectivement, on retrouve aujourd'hui une certaine pertinence de Malthus, ne cachons pas les choses. Simplement, on peut l'entendre avec un contexte de valeur qui est quand même aujourd'hui relativement différent. Mais effectivement, la première chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que nous sommes dans un monde fini, qu'on ne pourra produire que des richesses en capacité finie. Donc, de toute façon, on n'a pas d'autre choix qu'une certaine forme de partage ou la violence. Et comme vous le savez, la violence a déjà bien parti.
01 45 24 7000, un Eric chasse l'autre, si j'ose dire, puisque c'est Eric des Alpes de Haute-Provence qui nous appelle ce soir. Bonsoir Eric.
Bonsoir à tous.
C'est à vous. Posez votre question. Bienvenue sur l'antenne.
Merci. C'est simplement pour dire que le terme décroissance me paraît un peu trop, c'est-à-dire négatif. Il faudrait mieux trouver un autre terme qui serait plus facile à accepter pour tout le monde, en tout cas pour beaucoup de monde. Et je pense par exemple à croissance partagée, quelque chose comme ça, qui fasse que la notion négative du terme disparaisse, parce que ça va à l'encontre de l'épanouissement de la vie, et c'est important. Le terme même est important, il me semble.
Bien sûr. Bertrand Penché à l'UMP, on accepterait plus facilement ce mot de croissance partagée, puisque déjà, effectivement, comme le disait Gérard Ronesta, le terme décroissant est devenu une injure jetée à la face du concurrent politique.
Non, mais je crois vraiment que il faut que l'on s'engage vers un développement partagé de l'humanité. il faut croire au développement, sinon c'est un formidable retour en arrière. Et je crois également que il ne faut pas hésiter quand c'est nécessaire à parier sur certaines décroissances et par contre à mettre l'accent sur certaines autres croissances.
Mais par exemple quoi de façon très
écoutez,
pratique.
On s'est donné comme objectif sur le plan européen et français de diminuer de 20% notre consommation énergétique en 2020. C'est évidemment une forme de décroissance. Je crois qu'il faudra contrôler nos importations de matières premières, et on va le faire très vraisemblablement avec le bois, de façon à lutter contre la dégradation des forêts primaires. C'est évidemment une forme de décroissance. Mais par contre, la culture, l'éducation, la santé, on a besoin de donner de l'espérance à nos concitoyens et par conséquent de s'engager toujours vers des politiques de croissance, mais des politiques de croissance au service de l'homme.
Et l'agriculture, monsieur Panchet, puisqu'on vient d'apprendre quand même à l'occasion de Grenelle, c'est une surprise pour beaucoup de gens, que finalement nos bovidés, l'industrie de la viande, dégagent autant, sinon plus de carbone sur la planète que tous les trains, avions, voitures réunis. Alors, on va s'arrêter de manger de la viande rouge. Oui, est-ce que vous êtes prêt, vous, à l'UMP, à désespérer les éleveurs de charolaise?
Mais on ne s'engagera pas dans des politiques environnementales si ces politiques environnementales ne sont pas partagées par l'ensemble de nos concitoyens, ne sont pas acceptées, y compris par les agriculteurs, qui sont prêts à faire des efforts énormes en matière environnementale, mais qui ont évidemment une vocation première, qui est celle de nourrir l'humanité.
Gérard Onesta, vous avez remarqué la question du premier Eric sur la démographie de la planète et Dominique Bourg disait voilà, dans le festin planétaire, on va être 9 milliards. Les clés de la décroissance dans ce cas, c'est la frugalité, c'est la simplicité, mais c'est aussi effectivement la radinerie et le malthusianisme et pourquoi pas l'abstinence.
Pendant la durée de notre intéressante émission, à la fin, on sera 50 000 êtres humains de plus sur le vaisseau Terre. 50 000 en une heure. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, ça va peut-être bloquer. Et l'autre interlocuteur disait qu'effectivement, le mot décroissance pouvait poser problème. Il touche à quelque chose de très profond. Le message biblique lui-même parle de croisser, multiplier. Donc on voit bien que les deux notions sont liées. C'est vrai que le mot est fort, mais peut-être qu'il faut utiliser des mots très forts en politique pour qu'au final, les politiques elles-mêmes ne soient pas trop tièdes. Car justement, le problème, c'est que nous avons maintenant une urgence climatique, perte de biodiversité, etc. etc. Et si on continue à faire ça en attendant que les gens acceptent de bon gré, il faudra certainement, à un moment donné, faire un petit peu... une part de violence douce, j'appartiens à un parti non violent, mais une part de volontarisme qui ira à rebrousse-poil des mauvaises habitudes qui ont été prises, notamment en matière de consommation. C'est vrai qu'un jour de moins de viande dans la semaine, ça a l'air de rien, mais ça réduit quasiment déjà de 10% nos gaz à effet de serre. Donc, est-ce qu'on ne vivrait pas mieux avec en mangeant de la viande que 6 jours sur 7 plutôt que 7 jours sur 7? La question mérite au moins d'être posée.
Et la France se félicite d'avoir une démographie beaucoup plus dynamique que tous les autres pays d'Europe. Nous assurons presque le renouvellement des générations dans cette vieille Europe qui, elle, devient un peu un désert démographique et devra un jour compenser par de l'immigration industrieuse son manque à gagner. Dominique Bourg, on est toujours devant ce mur qui paraît incontournable. On va passer de 6,5 à 9 milliards d'habitants.
Oui, je crois que c'est un des aspects les plus importants du problème. Mais je voudrais revenir 30 secondes, si vous le permettez, à ce mot décroissance. Il est quand même intéressant parce que, effectivement, son défaut, c'est de vouloir résumer l'ensemble des choses avec un seul mot. Ça n'a pas de sens. Si vous voulez, par exemple, que la France, effectivement, ait un bilan énergétique meilleur, on va devoir investir dans le bâti, dans de nouvelles sources de production d'énergie, etc. Et ne vous attendez pas à ce qu'à 9 milliards, on vive comme autrefois. On crève tous de faim à 9 milliards en vivant comme autrefois. Ça n'a pas de sens. C'est pas le problème.
Autrefois, vous le dire. Comme aujourd'hui. Attendez, vous dites autrefois.
Là-dessus.
Autrefois, Dominique Bourg, c'est aujourd'hui. C'est 2009-2010.
Ah, non, quand je dis autrefois, quand les gens disent « Bon, bah, les écolos, voulez-vous nous faire revenir à la lampe à l'huile ?» Disons-le tout de suite, c'est totalement ridicule. Je veux dire, avec les technologies qui étaient les nôtres, à 9 milliards, on crève. Tout simplement, un point, c'est tout. C'est pas le problème, il n'est pas là, si vous voulez.
Mais si on vit comme aujourd'hui, est-ce qu'à 9 milliards, la Terre peut nous nourrir?
Vivre comme aujourd'hui, ça signifie quoi? Aujourd'hui, avec le taux de croissance mondiale avant la crise, ça veut dire qu'en 2100, on aurait 80 fois plus de transactions et probablement à 50 à 60 fois plus de flux de matière. Mais la planète, elle aura explosé depuis longtemps. Donc, c'est pas possible. Et vivre comme aujourd'hui, ça veut rien dire, puisque vous avez des gens qui sont dans l'extrême pauvreté. Et pensez par exemple aux traders de la place de New York qui, à peu près 1100, ont reçu en prime pour l'année 2008 à peu près 60% de la totalité de l'aide mondiale aux pays les moins développés. Donc vous imaginez que vivre comme aujourd'hui, si vous regardez ces deux extrêmes-là, vous voyez que ça n'a aucun sens. Moi, je veux revenir sur le mot. Le mot a un intérêt. Il a un côté faux parce qu'effectivement, il y a des domaines où ça va croître, des domaines où ça va décroître. Ça, c'est évident. Mais en revanche, le mot a ça d'intéressant, c'est qu'on est dans un modèle global de la croissance. On pense qu'on a des désirs infinis, qu'on pourra toujours les satisfaire. On pense effectivement qu'on doit toujours créer du nouveau pour consommer de plus en plus, créer de plus en plus des objets pour répondre à l'infinité de nos désirs. Ce modèle général-là, qui est le modèle de la croissance, justement, ce modèle, il est aujourd'hui devenu obsolète. Il nous amène à la ruine. Il nous amène tout droit dans le mur. Donc, l'intérêt du mot décroissance, c'est attention, c'est vrai, on est parti sur une lancée, on a des réflexes, y compris des réflexes mentaux, qui sont totalement orthogonaux, qui sont à angle droit par rapport à ce qu'on devrait faire. Ça, c'est l'intérêt du mot décroissance. Maintenant, tout n'a pas vocation à décroître. Et puis, tout n'est pas négatif. Au contraire, je pense que peut-être on peut vivre beaucoup mieux avec moins d'un certain type de croissance matérielle. Mais c'est sûr qu'on va devoir fournir un minimum à 9 milliards. Mmh. Et ce n'est pas une chose simple. Et vous ne le faites pas sans répartir différemment la richesse. Ça, c'est vraiment le point clé.
France Inter, le téléphone sonne, Patrick Boyer.
01 45 24 7000, c'est Jean-Michel qui est en ligne et nous appelle de Lozère. Bonsoir Jean-Michel.
Bonsoir.
C'est à vous, bienvenue sur l'antenne.
Eh bien, je vous remercie.
Quelle est votre question ?
Ma question est une invitation à aller plus loin que juste aborder la décroissance sur un mot, mais plutôt sur son sens profond, comme a essayé d'ouvrir le dernier intervenant. Je l'en remercie. Ma question adressée à tout le monde concerne donc une vision de la décroissance qui puisse être une transition vers un autre modèle et une transition qui nous libère de la toxicité, comme l'évoque Serge Latouche dans d'autres ouvrages, une toxicité de cette idée de la croissance. Voilà. Mais... le mot croissance est toxique, le trouvez-vous toxique, messieurs les intervenants, qu'avez-vous à dire à ce sujet.
Merci Jean-Michel. Gérard Onesta et Monsieur Pancher, qui êtes tous les deux ou avaient été des élus de la nation, c'est vrai qu'on a toujours les yeux rivés sur le PIB pour savoir si le pays a produit un peu plus que le mois dernier. Ce sera un signe dans ce cas-là de moins de chômeurs. Gérard Onesta, c'est tout un logiciel qu'il faudrait changer si on ne tient plus ça comme index référent.
Quand on parle de croissance, c'est d'abord une croissance d'indices, d'indicateurs économiques qui sont tous datés. Si vous achetez une voiture, vous faites monter le PIB. Si vous avez un accident, vous faites encore monter le PIB. Si vous êtes hospitalisé, vous faites monter le PIB. Et si vous mourrez, grâce au travail du croque-mort, vous faites encore monter le PIB. On voit bien que ça ne mesure pas forcément le bonheur, cette affaire-là. Donc il faut changer de comptabilité. Mais derrière cette histoire de décroissance, c'est peut-être quelle société l'on veut. Derrière la crise environnementale que l'on connaît actuellement et qui va s'accélérer parce que le monde est fini, comme l'a dit M. Bourg tout à l'heure, il y a soit un désastre, soit une opportunité. On sait ce qui va en coûter si on ne change pas de logiciel. Ce sera un désastre sur le plan humain, technique et financier. Par contre, si on comprend l'enjeu et qu'on y répond vraiment, on définit tout de suite une autre organisation mondiale basée sur la solidarité et non la compétition. On réoriente toute l'économie vers des choses beaucoup moins prédatrices. Je sais pas, on stabilise le social par la relocalisation des économies. On crée des dizaines de millions d'emplois à très court terme dans une nouvelle économie de la connaissance, de l'entraide des technologies propres. Il faut comprendre donc ce défi, pas comme une charge, mais peut-être comme un investissement et qui sait peut-être pour une chance pour l'humanité de réinventer son projet.
Bertrand Pancher, en finir avec la religion de la croissance calculée, scrutée par Bercy tous les mois ?
Oui, moi je crois qu'on assiste actuellement à une vraie rupture, c'est tant mieux. Je crois que notre société de consommation est arrivée à un terme et que les contraintes que nous vivons actuellement, environnementales mais également économiques, économique et aussi sur le plan scientifique font en sorte que nous devons nous réapproprier notre avenir. Et la réappropriation de cet avenir est pour nous tous un vrai espoir, notamment dans notre pays où on a cassé le lien social, où on est un des pays les plus riches de la planète. Il suffirait qu'on ouvre nos frontières pour que 1 milliard d'individus viennent habiter dans notre pays, et pourtant un pays où il y a autant de difficultés, autant de misère, autant de pauvreté. Donc cette crise doit nous permettre de réinventer un nouveau modèle de société en direction de l'homme, eh bien c'est tant mieux, mais je dois quand même insister sur le fait que je crois vraiment au développement de l'humanité et que ce développement se fera nécessairement par certaines autres formes de croissance, mais de croissance partagée.
Alors, vous rappelez opportunément qu'on est dans un pays riche. Moi, je vais vous faire du coup la critique de la décroissance. Il n'y a qu'en Occident qu'on prône la décroissance. Et ceux qui la prônent, disent ces critiques, sont les enfants de bourgeois foncièrement qui ont bien profité de la société d'abondance et qui sont maintenant repus et qui referment derrière eux la porte de la croissance. Ils éteignent même la lumière avant de partir. Gérard Onesta, qu'est-ce qu'on répond à ça ?
Bien, on répond à quelque chose que j'ai lu pendant un sommet onusien, c'était à Johannesburg, c'était Rio plus 10. Il y avait un magnifique slogan qui nous attendait quand on arrivait dans cette ville, c'était « un peu, pour tous et pour toujours ». C'était un slogan écrit par des Africains, c'est-à-dire un hymne à la frugalité, à la solidarité et à la pérennité. Malheureusement, les chefs d'État, à la fin de la conférence, ils ont dit « beaucoup pour très peu et tant pis, ça ne dure pas longtemps ». Mais je crois que la sagesse veut que l'on comprenne que c'est vrai que nous avons pillé déjà deux fois le tiers-monde. On l'a pillé déjà à travers le colonialisme raciste. On le pille encore avec le post-colonialisme libéral, mettant en place des dictateurs et en supportant leurs agissements. C'est vrai que si on vient d'ailleurs avec une nouvelle façon de penser en disant « vous en restez où vous êtes, vous les pays du Sud, et nous, on s'est tout permis et c'est comme ça et c'est pas autrement », ce sera une façon de les humilier une troisième fois. Et ça, c'est pas possible. Mais par des transferts de technologies, par justement la croissance de nouvelles technologies qui seront sans impact sur l'environnement, on va permettre à tous ces pays de nous rattraper sans passer par toutes les erreurs que l'on a fait. C'est ça vraiment l'objectif de la décroissance. Et une fois de plus, je vous renvoie à ce slogan qui était écrit par des Africains. Oui. C'était un très très bel hymne à la décroissance.
Et comment convaincre les opinions publiques des pays riches qui, elles, sont installées dans une société de consommation et qui sont face à des politiques qui seront soumises dans 3 mois ou dans 3 ans à une réélection et qui ne veulent pas à tout prix être impopulaires en imposant des restrictions qui changera
la pédagogie. Mais c'est ce qu'on fait ce soir sur votre antenne.
Bien sûr, mais le cycle politique dans une campagne électorale, c'est pas le téléphone sonne. Hein.
Je sais bien, mais si on renonce à la dimension pédagogique de l'action politique, c'est à désespérer du genre humain. Il faut faire appel à l'intelligence. C'est vrai que ce sont des choses qui sont complexes et qu'il est beaucoup plus facile de raser gratis et de promettre je ne sais quoi pour le lendemain. Mais la pédagogie du réel va aussi nous aider. Vous savez, quand la tempête du siècle arrive maintenant tous les 6 mois, on se rend compte que les changements climatiques, c'est vraiment sérieux. Quand on voit que la misère du monde est à nos portes et qu'il traverse à la nage la Méditerranée malgré tous les miradors et les barbelés que l'on met sur nos plages, on voit que c'est du sérieux. Je crois qu'on est en train de comprendre, et toutes les enquêtes d'opinion le disent, que nous sommes tous maintenant sur le même bateau, un bateau qui se rétrécit chaque jour davantage et qu'on ne se sortira pas les uns sans les autres. Et je crois que le Nord a tout à gagner à ce que le Sud s'en sorte.
Bertrand Pancher, combien de batailles à l'UMP en faveur de la décroissance
Très franchement, en faveur de la décroissance brute de décoffrage.
Zéro.
C'est-à-dire de la décroissance systématique, pas beaucoup.
Non, mais on ne fait pas de la rhétorique, la décroissance, telle qu'elle est expliquée chez nous en ce moment.
Comme une croissance appropriée, une croissance partagée, beaucoup, beaucoup. Je suis vraiment très agréablement surpris de voir le nombre de parlementaires ayant porté ce défi extraordinaire qu'est le Grenelle de l'environnement. Je crois que pour beaucoup d'élus de la majorité, nous portons tous ensemble ce nouveau projet de société. Entre le retour béat à la nature, une croissance effrénée, une économie sans contrôle, une science sans conscience, je pense qu'il y a une belle place pour nous réapproprier un développement au service de l'homme.
0145 24 7000, c'est Isidore qui nous appelle au téléphone sonne, d'Anthony. Bonsoir Isidore.
Allô, allô. Bonsoir.
C'est à vous, bienvenue sur l'antenne de France Inter.
Bonsoir, donc voilà ma question. Donc, Sachant que nous, les Occidentaux, nous représentons 20% de la population mondiale et que nous consommons 80% des ressources de la planète, je me demande si les propos sur la décroissance de la population ne sont pas, je dirais, assez déplacés et si la meilleure solution, ce ne serait pas justement la décroissance de notre activité et que ça permettrait de résoudre le déséquilibre nord-sud et toutes les conséquences de ce déséquilibre, c'est-à-dire la pauvreté, la guerre, le terrorisme et la pollution.
Vous croyez qu'on peut imaginer que seul l'Occident décroîtrait alors qu'on laisserait croître, parce qu'ils viennent de beaucoup plus loin, tous les pays du sud ?
Ça serait la solution, c'est-à-dire que comme il y a un tel déséquilibre, c'est à nous de nous arrêter, de laisser les autres nous rejoindre, et après on repart ensemble. C'est-à-dire qu'au lieu d'augmenter le gâteau, il vaudrait mieux laisser le gâteau dans la taille qu'il est actuellement, et de faire des meilleures parts plutôt que d'essayer de grossir le gâteau, et de faire croire que les parts petites qu'on donne seraient un peu plus grandes en faisant de la croissance.
Bien sûr, Isidore, répartir mieux le gâteau. Dominique Bourg, vous qui êtes un philosophe, l'utopie aussi portée par la décroissance, c'est celle-là, que le Nord fasse une pause pour que le Sud rattrape un peu de son retard. Vous y croyez ?
Ouais, je ne poserai pas les questions sérieuses. De toute façon, vous savez, le Sud, il ne va pas nous laisser faire comme ça. Je veux dire, quand vous avez des puissances comme le Brésil, comme l'Inde, comme la Chine, ne croyez pas qu'on va continuer comme autrefois. Hein, les tensions internationales risquent de devenir très vives. En toute la grosse difficulté avec cette histoire de décroissance, c'est vrai qu'il faut quand même rappeler les choses. La croissance, c'est ce qui permet le crédit. C'est vraiment le moteur de nos économies aujourd'hui. Donc comment, si vous voulez, parvenir à changer le système sur un plan macroéconomique, et en même temps, il faut aussi changer sur un plan, on l'a redit tout à l'heure, sur un plan psychologique, sans se casser la figure ou sans faire du simple gauchisme, c'est-à-dire sans dire yaka, yaka. Toute la difficulté, elle est là. C'est-à-dire quels sont les instruments sur lesquels on peut se fonder pour, de façon progressive sur plusieurs décennies, eh bien, essayer d'éviter l'iceberg. Et ça, c'est... Alors, on possède déjà un certain nombre de ces instruments aujourd'hui. C'est ça qu'il faut chercher. Quelles sont les manières, quels sont vraiment les leviers sur lesquels on peut compter pour réorienter progressivement, sans se casser la figure, nos économies. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, effectivement, c'est si on continue nous-mêmes dans nos propres modes de vie, eh bien, Eugene Tao n'arrivera jamais, si vous voulez, à faire changer la soif de consommation des Chinois. C'est si l'Occident lui-même arrive à infléchir progressivement ses comportements, ses modes de vie, qu'il sera beaucoup plus facile pour les élites asiatiques d'emprunter une autre voie. Si nous persistons sur la nôtre, eh bien, de toute façon, eux-mêmes agiront de la sorte et on se cassera tous la figure ensemble. Donc la difficulté, il ne faut pas, au-delà du mot, si vous voulez, décroissance, trouver ces leviers, arriver à infléchir les choses, c'est un défi gigantesque. Je ne suis pas du tout sûr qu'on en ait les moyens, mais en tout cas, nous devons les chercher. Sinon, effectivement, les lendemains risquent d'être assez douloureux.
Gérard Rolesta, puisque les Verts ont été les premiers à porter les idées de développement durable et de respect de l'environnement et de la planète Terre.
Oui, quand notre auditeur nous demande s'il ne faudrait pas mieux partager le gâteau. Le problème, c'est qu'il y a 192 cuistots qui se battent pour tenir le couteau. Ce sont les 192 chefs d'État. Et quand il faut décider quelque chose à l'unanimité pour faire un traité international, on a vu à Copenhague, on n'y arrive pas. Je crois qu'il faudra changer l'ONU si on veut un jour vraiment réussir la décroissance. L'ONU a été créée à une époque où chacun pouvait prétendre régler les problèmes au niveau de son État-nation. Voilà pourquoi rien dans les affaires transnationales ne pouvait être imposé à quelconque pays. Le problème, c'est que ce que doit affronter maintenant l'humanité au troisième millénaire, c'est des problèmes d'une toute autre nature. La globalisation des problèmes, elle se rit des frontières supposées étanches et de l'unanimité.
Sauf que quand on a affaire, à des États-continents comme la Chine et l'Inde, le discours très précis qu'ils tiennent, c'est « nous sommes maîtres chez nous ». Nous avons un milliard d'habitants derrière nous, c'est-à-dire chacun un sixième de la planète, et nous n'accepterons aucun gouvernement mondial.
Et quand ils pèsent autant à l'ONU, à l'AG, de l'ONU que Monaco, il y a un problème. Il faudra bien changer la règle du jeu parce que le jeu lui-même a changé. Donc il faut vraiment fondamentalement changer l'ONU. Il y a plusieurs pistes pour ça. On sait très bien que la hiérarchie des normes doit être repensée. Pour l'instant, en haut de la pyramide, vous avez l'Organisation mondiale du commerce. C'est la seule à avoir un tribunal arbitral. Tant qu'il n'y aura pas l'OIT, celle qui s'occupe du travail, ou le PNUD qui s'occupe du développement, ou le PNUE qui s'occupe de l'environnement, ou la FAO de l'agriculture, qui ont également leur mécanisme de juridiction pour pouvoir condamner les pilleurs de la ressource planétaire, on ne s'en sortira pas. On voit bien que tant qu'on ne changera pas cette règle du jeu, on ne pourra pas changer le cours du jeu.
France Inter, le téléphone sonne.
01 45 24 7000, c'est Najib qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonsoir Najib.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter, allez-y.
Merci, bonsoir monsieur. En fait, je voulais intervenir un petit peu sur, sur le thème. Et,
allez-y.
Ce que je trouve... ce que je voulais faire, c'était remettre un petit peu... Enfin, me demander s'il ne fallait pas remettre en cause le système capitaliste, justement, qui, par la croissance, donc, génère des richesses sans cesse. Mais ces richesses sont généralement accumulées par toujours les mêmes, hein, une classe dominante, et qu'il ne faut pas, justement, bon, pour la décroissance, commencer par une décroissance des inégalités.
Merci. Bertrand Pancher, c'est vrai que depuis deux siècles, grosso modo, le monde industriel vit sur la recherche, l'accumulation de profits. Ça implique le progrès, ça implique un développement économique, technique sans précédent. Est-ce qu'on aurait le courage de remettre tout ça en cause ?
Je crois que tout ça est en train de changer profondément. Je crois que la grande crise économique que nous venons de vivre nous démontre qu'une économie n'a pas de sens sans contrôle. Je crois que nous ne pouvons pas nous engager comme nous nous sommes engagés dans le passé dans cette croissance aussi effrénée. Et je pense également que la science a besoin de conscience. Et je suis convaincu que la société de demain sera une société avec des règles et avec des valeurs. Nous ne mettons pas de règles et si ces règles ne sont pas appuyées sur nos valeurs, eh bien, nous allons dans le mur et nous allons dans le mur très rapidement. Et c'est la raison pour laquelle je suis convaincu que la place de la France a un rôle important dans le domaine en consensus sur le plan européen. Nous avons une capacité formidable à nous projeter dans l'avenir et je suis convaincu que la place de la France et la place de l'Europe est d'entraîner le monde à travers ses règles et ses valeurs.
Entraîner le monde, Gérard Onesta, vous avez bien vécu ça au Parlement de Strasbourg, mais encore une fois, est-ce que les grands pays émergents, eux, veulent de ces valeurs dont ils pourront éventuellement dire rapidement que ce ne sont pas les leurs ?
J'ai l'impression qu'on peut répondre oui, à condition qu'on leur en donne les moyens. C'est-à-dire qu'ils ne seraient pas contre avoir un certain standing à l'occidental en termes de culture, de santé, de logement, d'adduction d'eau, etc., etc. Mais dès qu'on vient aux histoires de gros sous, on voit bien que là, ça bloque. Le chiffre de 0,7% du PIB qui doit être un jour à terme donné à l'aide au développement, ça fait 40 ans qu'on en parle, on n'en voit jamais la couleur. Les 100 milliards annoncés à Copenhague, on sait très bien que ce sera la même chose, puisqu'on ne sait pas d'où vient cet argent. Alors que nous en avons les moyens. Il faut savoir que si on veut, du jour au lendemain, là, demain matin, avec les techniques qui existent actuellement en fin 2009, permettre justement à la santé, à la culture, à l'éducation, au logement, à être des biens uniformément partagés sur l'ensemble de la planète, il suffirait de 1/100 des flux financiers, 1/5 des dépenses de pub, 1/10 des dépenses d'armement. Donc nous avons ces moyens-là, mais qui sont mis ailleurs. C'est ça, c'est une répartition d'un gâteau existant, le gâteau financier qu'il faut réorienter.
Merci. Le dernier mot pour un auditeur, c'est Philippe qui nous appelle de Nyon. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Allez-y.
Bonsoir.
Allez-y vite. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Bravo pour votre émission, mais je pense que le problème, c'est pas vraiment la croissance ou la décroissance, c'est plutôt notre société de consommation et surtout tout le gaspillage qui est généré par nos habitudes.
Nos habitudes, effectivement, Dominique Bourg, mais est-ce que tout le monde a les moyens de vivre de son potager, de circuler à vélo ?
Écoutez, de vivre son potager, non, c'est le problème n'est pas là. Mais les habitudes de consommation, oui, ça fait partie d'une ère de la guerre. Toute la difficulté face à laquelle on est confronté, c'est qu'effectivement, on doit resserrer les choses, on doit revenir à une certaine forme de justice. Maintenant, on sait que si on resserre trop, on a connu aussi ce qui s'était passé au-delà du rideau de fer. C'est très difficile ce à quoi on doit parvenir. Il faut retrouver une nouvelle forme d'équilibre. Il faut éviter des extrêmes qu'on connaît, d'autres qu'on pourrait peut-être expérimenter, il faut effectivement s'en garder. On a beaucoup de choses à inventer. Je crois que la première chose, c'est ne pas dénier les difficultés. Et puis, par ailleurs, garder une certaine ouverture d'esprit, garder aussi une certaine forme de bon sens. On ne va pas raser gratis demain. On ne sera pas tous égaux demain. Mais on connaît des écarts de richesse qui sont destructeurs. Donc, il va falloir les resserrer. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on va arriver non plus à un système totalement égalitaire. Et de même, si vous voulez, on peut effectivement avoir une certaine forme d'égalité pour des biens fondamentaux comme l'accès à la santé, l'accès à l'eau, etc. Bon, il va falloir réinventer toute l'organisation de la société. Je voudrais simplement terminer là-dessus, que chacun cherche quels peuvent être les leviers de façon assez précise, comment on oriente, comment on s'oriente vers une autre forme de société.
Par exemple, avec des transports en commun gratuits dans les villes.
Oui, et c'est par exemple aussi, en revenant sur le PIB, dont on sait que c'est un mauvais indicateur. Il y a une commission qui a fourni des résultats il y a quelques temps qui étaient très intéressants. Voilà, le chantier aujourd'hui, il est ouvert. Bah, allons-y.
Merci. L'utopie est en route. C'était la décroissance au téléphone sonne. Demain, nous nous intéresserons aux sans-logis. Ils sont 100 000 en France, au cœur de la Vière. Ce sera le téléphone sonne de demain. À demain soir. Merci.